en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Tout au long de l'année 2011, lors d'une des séances de l'Académie des sciences morales et politiques, chaque académicien est invité à évoquer un sujet sur lequel il travaille ou sur lequel il a tout simplement envie de s'exprimer. Les sujets abordés sont donc très divers. Canal Academy vous propose d'écouter maintenant la communication de la séance du lundi 14 mars 2011, au cours de laquelle Jacques Delarosière, ancien gouverneur de la Banque de France, ancien directeur du Fonds monétaire international et auteur du rapport qui porte son nom, a expliqué la notion d'aléa moral dans le domaine financier et bancaire.
Je vais vous parler en effet du hasard moral ou de l'aléa moral, expression que je préfère. L'origine et la définition de cette expression, assez énigmatique du reste, d'aléa moral, ou selon l'anglais « moral hazard », de hasard moral, mérite une explication. Ce concept a pris naissance dans le monde des assureurs, qui ont cherché à savoir si les comportements, c'est-à-dire le « moral behavior » de leurs clients, pouvaient être influencés par l'existence de contrats les protégeant contre divers types de risques. Serait-il possible que certains assurés se montrent moins prudents, voire prennent délibérément des risques auxquels ils ne se seraient pas normalement exposés, sans assurance? Une telle déviation de comportement se manifeste-t-elle effectivement? Et dans l'affirmative, peut-elle revêtir une importance significative? Cette notion d'aléa moral peut avoir une portée plus générale que celle de l'assurance. Si les individus sont persuadés que les pouvoirs publics interviendront toujours pour les protéger en cas de péril, certains d'entre eux, ou nombre d'entre eux, peuvent être tentés de relâcher leur prudence naturelle. Si l'État a tendance, comme c'est de plus en plus le cas, à intervenir systématiquement, notamment en vertu du principe de précaution, on conçoit, par exemple, que certains assurés sociaux puissent se montrer moins stricts quant à leurs règles d'hygiène. De même, des alpinistes ou autres amateurs de sports dangereux peuvent-ils être tentés d'affronter des périls déraisonnables, sachant qu'ils peuvent toujours compter sur l'assistance de la protection civile, comme on dit. Or, le coût pour la collectivité de tels comportements peut s'avérer très lourd. C'est dans le domaine financier que l'aléa moral a pris, avec la crise actuelle, une dimension spectaculaire, et c'est cet aspect de la question que j'aborderai aujourd'hui. J'articulerai mes commentaires autour de trois axes. Premièrement, les fondements théoriques du concept d'aléa moral. Deuxièmement, les changements intervenus depuis 20 ans dans le monde financier et comment ils ont favorisé l'aléa moral. Et enfin, la dimension extraordinaire du phénomène actuel et les mesures qui seraient nécessaires pour contenir, voire tenir en échec, ce qui est devenu une véritable calamité publique. D'abord, les fondements théoriques du concept d'aléa moral. Il faut évoquer ici le grand économiste américain Kenneth Arrow, prix Nobel et professeur à Stanford puis à Harvard, qui est célèbre pour sa théorie, du reste aujourd'hui contestée, de l'équilibre général des marchés fondée sur l'hypothèse de la rationalité des agents économiques. Mais c'est lui qui, le premier, a conçu la théorie de l'aléa moral dans ses travaux des années 50 et 60. Partant de la théorie de Bernoulli sur l'aversion générale au risque, Arrow aborde la question du recours à l'assurance. Il observe que dans tout système économique, mais en particulier dans le système capitaliste, les producteurs de biens et de services, les chefs d'entreprise, sont appelés à faire face à des risques liés à l'incertitude qui caractérise les activités humaines. Les gains, comme les pertes, sont aléatoires. Cette incertitude est le lot des entrepreneurs. Mais depuis longtemps, un certain nombre d'institutions ou de mécanismes ont aidé les entrepreneurs à transférer sur d'autres certains de ces risques. Les mécanismes les plus courants sont la création des sociétés anonymes d'une part et l'assurance de l'autre. Les sociétés de capitaux qui limitent les pertes des actionnaires au montant qu'ils investissent sont un moyen pour le chef d'entreprise de transférer une partie du risque encouru du fait de son activité à des tiers qui acceptent d'acheter les actions et donc de prendre en charge une partie du risque, mais aussi de bénéficier des gains de la société en question. Ce mécanisme permet au chef d'entreprise de prendre des risques et ainsi de faire avancer, par exemple, le progrès technologique, démarches dont les résultats sont par essence incertains. L'autre mécanisme de transfert de risque le plus courant est l'assurance. Contre le paiement de primes, les assurés, qu'ils soient entrepreneurs ou individus, obtiennent une protection contre la survenance de risques futurs. Ces mécanismes sont par nature limité et imparfait. Ainsi, un entrepreneur qui entendrait porter lui-même le risque lié au processus de production qu'il connaît bien, mais souhaiterait transférer à d'autres les risques liés à l'évolution du marché, de la demande, de la conjoncture, ne peut pas le faire à travers la constitution d'une société cotée en bourse. De même, les compagnies d'assurance ont-elles toujours segmenté les protections qu'elles offrent, santé, décès, dégâts des eaux, incendies, etc., mais ne peuvent ni ne souhaitent couvrir tous les risques possibles. De plus, elles limitent leur protection à la valeur des biens assurés. Ces limitations, qui visent donc à cantonner les risques, sont souvent renforcées par certaines réglementations d'origine extérieure. Ainsi, les lois sur les faillites peuvent aboutir à l'extinction complète des droits des actionnaires ainsi qu'à la contribution des créanciers à la poursuite de l'activité de l'entreprise. De leur côté, les compagnies d'assurance santé, afin de mieux limiter leurs risques, font procéder à des examens médicaux de leurs assurés. Dans la même perspective, l'État, en contrepartie des prestations sociales, veille à la qualité des diplômes médicaux et institue des procédures de contrôle pour éviter les abus, comme les certificats de complaisance ou les excès de prescription. Or, ces interventions sont en grande partie liées au problème de l'aléa moral. En effet, comme le dit Haro, je cite, « le contrat d'assurance pourrait modifier les incitations et en conséquence les probabilités de risque sur lesquelles la compagnie a fondé sa politique ». Fin de citation. Ainsi, une assurance contre l'incendie ne couvrira jamais plus que la valeur actuelle de l'immeuble, sinon cela encouragerait l'assuré négligent ou, à l'extrême, l'incendiaire. Ce qui est souhaitable, observe Haro, en matière d'assurance, c'est que les événements contre lesquels un individu cherche à se protéger soient en dehors de son contrôle. Mais, il ajoute, malheureusement, dans la vie réelle, cette séparation ne peut jamais être parfaite. Le problème de fond est celui de l'asymétrie des informations. L'assuré négligent ou mal intentionné sait qu'il est négligent ou malhonnête, mais l'assureur ne le sait pas. Ce dernier ne peut donc définir parfaitement les risques qu'il assure. Il observe en général un résultat global qui est composé de risques inévitables qu'il est désireux de couvrir et de décisions humaines déviantes, celles de l'aléa moral, qu'il ne souhaite pas assurer. L'assureur devra donc, pour éviter de transférer trop de gains à des assurés mal intentionnés au détriment des autres, multiplier les contrôles. Si l'assureur est trop généreux, si l'assuré peut vivre plus confortablement sans se plier aux disciplines nécessaires, les coûts auront tendance à s'élever pour l'ensemble des clients. C'est à ce point qu'Aro préconise la co-assurance, c'est-à-dire le partage des risques entre l'assureur et l'assuré dont le profil de risque est élevé. Le malus prévu par les contrats d'assurance automobile est une des formes de ce partage. Aro conclut, il est aisé de constater que l'assurance contre l'échec économique n'existe pas, l'incitation à réussir serait trop gravement réduite. Je vous demande de vous souvenir de cette citation, car nous y reviendrons dans le courant de l'exposé. De manière générale, l'aléa moral désigne donc le risque que l'une des parties à une entreprise ou à un contrat profite abusivement d'une dissémétrie d'informations aux dépens des autres. Par exemple, des dirigeants ou des employés, pour accroître leur rémunération, peuvent favoriser des décisions qui assurent de plus forts revenus à court terme, en différant par exemple le renouvellement de l'outil de production ou en repoussant la couverture de risque, mais qui dégradent la position à long terme de l'entreprise. Tous ces raisonnements, on va le voir d'ici un instant, s'appliquent dans leur principe à la situation actuelle née de la crise financière. J'en viens à ma deuxième partie, la portée extraordinaire de l'aléa moral en matière financière aujourd'hui. D'abord, la spécificité de l'industrie financière, elle offre un terrain favorable à l'aléa moral. L'industrie financière, et tout particulièrement les banques, comporte par rapport aux autres activités économiques, industrielles ou commerciales, une spécificité parmi d'autres. Le système bancaire assure en effet la fonction essentielle dite d'intermédiation, c'est-à-dire que les banques collectent l'épargne des particuliers, les dépôts, pour les transformer en prêts. Cette transformation de dépôts à vue ou à court terme en actifs à moyen ou long terme joue un rôle central dans le fonctionnement de nos économies. Mais ce mécanisme est très fragile et son exercice peut être dangereux. Il dépend, pour être efficace, de la qualité des prêts consentis par les banques. Celle-ci dépend à son tour de la qualité et du sérieux de l'analyse des risques à laquelle procède le banquier. Si cette analyse est défectueuse et qu'un nombre élevé d'emprunteurs en viennent à connaître des difficultés ou des défauts de paiement, c'est la qualité du bilan de la banque et donc sa réputation qui sont menacées. Dans ce cas, le danger est de voir les déposants perdre confiance dans leur banque et retirer leurs fonds. On comprend l'importance de l'enjeu. La confiance des déposants dans leur banque est cruciale. Sans elle, le système bancaire et par voie de conséquence le financement de l'économie s'effondrerait. La sécurité de l'épargne peut donc être considérée comme un bien public. De fait, les décideurs politiques se montrent particulièrement sensibles aux difficultés que pourraient rencontrer les institutions financières qui reçoivent des dépôts des épargnants. Comment assurer la stabilité du système bancaire et des dépôts sans ouvrir la voie à l'aléa moral ? Trois moyens sont bien connus. Le premier, c'est une réglementation adaptée. Du fait de l'importance de leurs fonctions, les banques sont en effet soumises à un corps de règles particulières édictées par les pouvoirs publics. Ces règles imposent aux établissements des obligations en matière de fonds propres, de liquidités, de coefficients de transformation, de concentration de risque sur tel client ou tel client. Ces règles sont en principe unifiées sur le plan international dans la mesure où elles sont arrêtées par le comité des régulateurs, dit comité de Bâle. La deuxième méthode, c'est une surveillance efficace. Les superviseurs nationaux doivent assurer, au moyen notamment de vérifications sur place, que les règles sont bien appliquées par les établissements financiers. Leur rôle est vital pour prévenir les crises bancaires, détecter assez tôt les anomalies et mettre en œuvre, quand il en est encore temps, les mesures de redressement nécessaires. Et enfin, le troisième dispositif devrait être le moins important. Il s'agit de mettre en place, pour des montants limités afin de contenir le risque d'imprudence tant des déposants, qui pourraient être alléchés par des taux d'intérêt excessifs, que des banquiers eux-mêmes, et donc celui d'aléa moral, une assurance des dépôts des particuliers. Avant la crise de 2007, les banques assuraient elles-mêmes les déposants contre les risques de défaut par le jeu d'un mécanisme de mutualisation auquel contribuait l'ensemble des établissements de chaque pays sur la base de leur part dans le total des dépôts. Ainsi, en France, les déposants étaient assurés à hauteur de 70 000 euros par compte. C'est vers une limite de 100 000 euros que les pays de l'Union européenne tentaient de s'harmoniser avant l'éclatement de la crise. Dans les pays où le système de supervision et de contrôle des risques fonctionnait bien, comme en France, en Italie, au Canada, il n'y a pas eu de faillite notable depuis des décennies. Quelques banques, comme le Crédit Lyonnais ou les banques scandinaves au début des années 90, ont certes connu de sérieuses difficultés, mais elles ont pu être recapitalisées ou rachetées, parfois liquidées, au prix de pertes en capital subies par les actionnaires. Ces épisodes ne se sont pas généralisés à l'ensemble du système financier et n'ont pas provoqué des fuites de déposants. La question de l'aléa moral ne se posait donc pas dans les mêmes termes qu'aujourd'hui. L'expression était du reste peu employée jusqu'aux années 90. Mais tout cela a complètement changé du fait de l'évolution du système bancaire depuis 20 ans. Un bref rappel de ces changements est indispensable pour comprendre la portée actuelle de l'aléa moral. Trois facteurs ont modifié en profondeur le système bancaire. D'abord, le volume et la complexité des transactions financières se sont accrus de façon spectaculaire. Sous l'influence de la libération des mouvements de capitaux qui s'est généralisée au cours des années 90 et des mutations technologiques, les activités financières ont littéralement explosé. Quelques exemples illustrent ce phénomène. Par exemple, à la veille de la crise, 40%, je dis bien 40%, de tous les profits réalisés par l'ensemble des entreprises américaines, commerciales, industrielles ou autres, provenaient des institutions financières. Ces 40% sont évidemment très supérieurs à la valeur ajoutée par ces institutions ou à leur part dans l'activité réelle du PIB américain, qui est inférieure à 10%. Mais la progression des transactions financières était en grande partie le résultat d'opérations de trading, comme on dit, entre établissements, banques d'investissement, hedge funds, et ces transactions dont la finalité est de permettre à des acteurs de marché de prendre des positions, de profiter de la volatilité ou de vendre des instruments de couverture ou des produits dérivés complexes et sur mesure, ont considérablement gonflé les bilans et les hors-bilans des établissements financiers, c'est-à-dire leurs risques, sans du reste contribuer notablement à la croissance économique. La deuxième évolution, c'est que l'effet de levier du système financier a considérablement augmenté. La réglementation impose aux banques de détenir un pourcentage minimum de fonds propres, de capitaux, par rapport aux risques qu'elles encourent. C'est ce qu'on appelle le ratio de capital. Mais nombre d'institutions sont parvenues à échapper à cette règle qui limite par définition l'effet de levier des banques. À cette fin, elles ont recouru à diverses méthodes. Par exemple, la titrisation, qui permet à une banque de transformer en prêt
de transformer des prêts, veux-je dire, en titres qui sont vendus sur le marché à des investisseurs, à des SICAV, par exemple. On comprend dès lors que les contraintes du ratio de capital se soient desserrées, puisque les prêts en question ne sont plus au bilan. Donc ils ne sont plus dans le calcul du ratio. Ce phénomène a pris un essor spectaculaire au cours des années précédant la crise. Un certain nombre de banques ont à cet égard adopté le modèle anglo-saxon dit « originate and distribute », ce qui veut dire « initier des prêts, puis les distribuer aussitôt aux investisseurs ». Un deuxième moyen, ça a été la création de véhicules hors bilan, qui a permis à de nombreuses banques de constituer des actifs non soumis à des règles aussi strictes que celles qui s'imposent aux opérations sur bilan. Enfin, le développement d'un système bancaire parallèle, le fameux « shadow banking system » dont parlent les Américains, constitué de fonds divers, a permis d'échapper aux règles de capital, puisque ces fonds n'étaient pas soumis en pratique à des contraintes réglementaires et de surveillance, alors qu'ils couraient exactement les mêmes risques que ceux des banques, puisqu'ils empruntaient à court terme pour investir dans des produits financiers. Au total, le système bancaire s'est massivement endetté. Par exemple, aux États-Unis, la dette des institutions financières est passée de 1978 à 2008, de 16% du PIB à 121% du PIB. Au moment de financer cet effet de levier, afin de profiter de taux très bas, sur les termes les plus courts, les institutions financières ont accentué le décalage entre l'échéance de leurs actifs et celle de leur financement. Cette situation, qui les conduit à rembourser chacune de leurs échéances par un nouvel emprunt à court terme, les a surexposés au risque de tarissement de ces sources de financement. Enfin, dernier phénomène notable dans l'évolution de ce qui s'est passé, c'est que l'analyse et la gestion des risques se sont détériorées. Dans le contexte de très bas taux d'intérêt entretenu par la Federal Reserve Bank des États-Unis pendant les années précédant la crise, l'incitation à prêter et à emprunter était grande. Et plus grave encore, pour améliorer leur performance, car les rendements des bons du Trésor étaient très faibles, investisseurs et gestionnaires de fonds étaient tentés de prendre des risques plus élevés, mais plus rémunérateurs. Nombre de banques ont donc prêté moins d'attention à la qualité des crédits qu'elles consentaient. Or, on a vu que cette analyse du risque constitue l'élément central de la stabilité des banques et du système financier. Je m'empresse de dire que certaines banques, notamment en France, en Italie, au Canada, en Australie, ne sont pas tombées dans ces erreurs. Un des cas les plus caricaturaux de cette dégradation de la gestion du risque est celui du fameux subprime aux États-Unis. Ces prêts hypothécaires étaient accordés à des particuliers modestes dont les revenus ne leur permettaient pas d'honorer leurs échéances. Et ça, les banques le savaient au départ. Mais la titrisation permettait aux établissements qui s'étaient lancés dans cette activité de vendre sur le marché leurs créances sous forme de titres, cotés au maximum, triple A, grâce à la complicité et à l'incompétence des agences de notation qui tiraient du reste une partie essentielle de leurs revenus de l'activité de conseil qu'elles proposaient aux banques pour les aider à mettre au point et à noter de tels titres. Les investisseurs étaient d'autant plus incités à acheter les titres qu'ils étaient mal informés des risques réels qu'ils couraient. C'est encore l'asymétrie d'information dont je parlais. Au surplus, les établissements de crédit feignaient de croire que la hausse des prix de l'immobilier continuerait indéfiniment et qu'elle sécuriserait ces types de prêts grâce à l'accroissement de la valeur des immeubles pris en gage. Enfin, le système comptable imposé par les États-Unis à l'Europe de valorisation au prix du marché aboutissait à gonfler la valeur des actifs et donc des profits dans la phase ascendante du cycle, ce qui contribuait à entretenir l'euphorie. Mais quand les prix de l'immobilier ont commencé à baisser aux États-Unis, 2006-2007, et que les marchés se sont aperçus que les notes attribuées aux titres fondées sur les subprimes s'effondraient en conséquence, c'est l'ensemble des marchés de l'argent qui, par contagion et par peur, se sont brutalement taris. Cette situation qui menaçait la liquidité et donc l'existence même d'une grande partie du système financier mondial, la vente des titres fondés sur les subprimes avait en effet franchi l'Atlantique, a posé sous un jour nouveau le problème de l'aléa moral. Comme on ne pouvait laisser le système s'effondrer au risque de provoquer une dépression générale, les États et les banques centrales ont massivement soutenu les banques en difficulté. Ne peut-on penser que les nombreuses banques qui se sont laissées emporter par cette vague d'euphorie, de croissance débridée des crédits à tout prix, n'ont pas été d'une certaine façon encouragées dans leurs erreurs par l'existence d'un filet de sécurité implicite, certes, non officiellement proclamé, mais dont la mise en place revêtait une très forte probabilité, étant donné l'énormité des enjeux. Je reviendrai sur cette question dans ma conclusion. J'aborde maintenant la dernière partie, le coût extraordinaire de l'aléa moral en matière financière et les moyens de réduire ce phénomène. Alors, la dimension du problème est phénoménale. Si l'on ajoute les aides de toute nature, directes, indirectes, liquidités, recapitalisation, garanties, etc., engagées tant par les gouvernements que par les banques centrales pour éviter l'effondrement du système financier, et je précise que ces montants sont très loin d'avoir été tirés, utilisés en totalité, mais c'est ce qui m'importe, ils ont été mis en place. On arrive pour l'Europe à 25% du PIB européen, et pour les États-Unis, tenez-vous bien, à près de 75% de leur PIB. Ces montants, qui ne comprennent pas les plans de relance mis en place par les États pour soutenir l'activité économique et qui ont profondément dégradé les finances publiques de nombreux pays, dont le nôtre, défient l'imagination. Jamais dans l'histoire n'a-t-on engagé tant de moyens publics pour réparer les aberrations telles que je viens de les analyser du système financier et éviter son effondrement. Quels sont les pays qui ont été les plus affectés ? Comme on pouvait s'y attendre, ce sont les pays où les systèmes bancaires avaient adopté le modèle anglo-saxon et où la surveillance était la plus faible, que les dégâts ont été les plus élevés. Il s'agit des États-Unis, de la Grande-Bretagne, de l'Allemagne, de la Suisse et de l'Irlande. Aux États-Unis, les garanties des dépôts sont élevées à des chiffres astronomiques. De grandes banques comme Citi ont été largement soutenues par des participations publiques. Ça a été le cas aussi du Royaume-Uni, où des banques comme Lloyds, TSB et Royal Bank of Scotland ont été, et sont encore, du reste, en très grande partie nationalisées. Le cas irlandais, qui vient de défrayer la chronique, est caricatural. Les bilans des principales banques irlandaises représentaient plus de 10 fois le PIB irlandais. Les pertes subies par ces banques, qui ont été prises en charge par le gouvernement, qui avait garanti en 2008 l'ensemble des dépôts ainsi que des crédits accordés à ces banques, se sont élevées à près de 25 milliards d'euros. Au total, les aides consenties aux banques irlandaises s'élèvent à plus de 20% du PIB de ce pays, ce qui explique, avec la baisse de l'activité économique, que l'endettement public de ce pays soit passé de 90% à 120% du PIB en un seul coup, plongeant ainsi le pays dans la plus grave crise budgétaire qu'il ait jamais connue. Et enfin, la généralisation de la garantie des dépôts. J'ai indiqué qu'en temps normal, les banques garantissaient pour des montants limités les dépôts grâce à un système de mutualisation des risques. Mais cette crise a pris une telle ampleur que les systèmes de garantie organisés par les banques se sont avérés totalement inadéquats. Les gouvernements ont donc cherché à rassurer les déposants en leur promettant une garantie illimitée. Le premier épisode de cette généralisation est la garantie des dépôts liée à la crise de la banque britannique Northern Rock à l'automne 2007. Cette banque, spécialisée dans l'octroi de crédits hypothécaires, était financée en grande partie par des emprunts à court terme. Lorsque les marchés de l'argent se sont brutalement asséchés, mi-2007, à la suite de la prise de conscience du scandale des subprimes, Northern Rock n'a pas été à même de se refinancer. Les déposants l'ont vite compris. Et on a vu à la télévision de longues queues de clients venant retirer leurs fonds au guichet de cette banque. Le spectre des faillites bancaires des années 30 a soudain ressurgi et le gouvernement de Sa Majesté a déclaré, pour calmer les inquiétudes, que l'État garantirait tous les dépôts bancaires, quelle que soit leur durée, quel que soit leur montant et quels que soient les établissements. Lorsque la crise s'est gravement amplifiée avec la faillite de la banque d'investissement Lehman Brothers à l'automne de 2008, l'ensemble des gouvernements des pays industrialisés ont garanti les dépôts bancaires afin d'éviter que le choc post-Lehman ne se traduise par une panique générale et des retraits en chaîne. Cette généralisation de la garantie des dépôts place donc sous un jour nouveau la question qui m'est posée, celle de l'aléa moral. Il ne s'agit plus de la possibilité éventuelle et non formellement explicitée d'une garantie publique, mais de sa certitude. Comment se pose, dans un tel contexte, le problème du comportement des banques et celui de l'élimination de l'aléa moral ? J'arrive à ma fin d'exposé. Et d'abord, aurait-on pu faire autrement ? J'ai évoqué les déviations qui ont fragilisé le système bancaire et qui ont permis la constitution d'une énorme bulle de crédit dont l'éclatement soudain a plongé le monde dans le désarroi et s'est traduit par une réduction sévère de la croissance et une montée très forte du chômage. Aurait-on pu éviter cet enchaînement fatal ? La réponse est, à mon avis, sans nul doute, positive. D'abord, les autorités monétaires ont laissé s'instaurer pendant trop longtemps des taux d'intérêt trop faibles, voire nuls, et même négatifs après prise en compte de l'inflation. Comme je l'ai montré dans une autre étude, la politique monétaire a puissamment contribué à la crise. Or, elle aurait pu être différente. Son caractère asymétrique, très accommodante au moindre risque de ralentissement économique, à peine restrictive en cas d'emballement, a constitué une véritable invitation à l'aléa moral. En effet, la sanction de perte en cas de récession était pratiquement éliminée par les banques centrales. Ainsi, la règle d'or, Darrow, ne jamais s'assurer ou assurer contre l'échec économique, était transgressée. De surcroît, la supervision bancaire s'est révélée étonnamment faible dans toute une série de pays qui sont sans surprise ceux que la crise a le plus frappé. Les exemples de l'insuffisance de la supervision aux États-Unis, Grande-Bretagne, Allemagne, Suisse, Pays-Bas, Islande, Irlande surabondent. Songeons au fait que deux banques suisses s'étaient gonflées au point de représenter à elles deux 10 fois le PIB helvétique, 5 fois pour chacune, sans même que les autorités ne s'en soient émues. Le cas de l'Irlande révèle aussi un aveuglement inimaginable de la surveillance. En revanche, la qualité du contrôle bancaire était élevée dans des pays comme la France, l'Italie, l'Espagne, le Canada, où aucun problème majeur ne s'est posé. Mais une fois la crise déclenchée, il eût été impossible de faire autrement que de la traiter avec des ressources publiques. La connectivité, comme on dit, du système financier dans notre monde globalisé ne permettait pas de laisser faillir tel ou tel établissement particulièrement vulnérable. L'effet de contagion eût été désastreux. Alors, et c'est ma fin, comment réduire ce fameux aléa moral en matière financière pour l'avenir? Il résulte de l'analyse que je viens de vous présenter que, pour éviter le retour à de tels désastres et pour contenir l'aléa moral en matière financière, voire l'éliminer, il convient d'agir sur quelques leviers. Ils ne sont pas très nombreux, je vous rassure. Le premier, il faut d'abord relever le niveau des fonds propres des établissements et éviter les détournements par des véhicules hors bilan. Les règles de Bâle viennent d'être aménagées et durcies en ce sens. C'est bien. L'idée centrale de cette réglementation est d'obliger les banques à constituer des fonds propres suffisants, très largement supérieurs à ceux d'avant la crise, ainsi qu'à renforcer leur liquidité. Le but est de réduire la probabilité des pertes et, le cas échéant, de les faire absorber par les banques sans recourir à la faillite. C'est en quelque sorte la contrepartie de l'assurance des dépôts fournie par l'État et un moyen de discipliner les banques qui seraient tentées de prendre trop de risques et d'abuser de l'aléa moral. Deuxièmement, il faut renforcer la supervision sur le terrain. Je vous ai dit que c'était le maillon faible du système. Malheureusement, je ne vois guère encore de progrès en cette matière qui relève des habitudes et des pratiques nationales. En Europe, cependant, la création d'autorités bancaires communes devrait arriver, aboutir à relever le niveau acceptable des standards de supervision les plus critiquables. Il faut aussi que les établissements se préparent à une faillite éventuelle, si celle-ci s'avérait inévitable au cas où les mesures préventives que j'ai décrites auraient échoué. L'idée est de forcer les groupes bancaires à s'organiser en régime de croisière, quand rien ne se passe, pour faire face à des problèmes possibles de solvabilité. On pense à imposer des plans de liquidation ou de cession d'actifs identifiés à l'avance, au besoin par une filialisation des activités. On envisage aussi, en cas de liquidation, d'exiger des créanciers privés qui sont porteurs d'obligations émises par les banques et qui ont été jusqu'ici épargnés grâce aux aides publiques, qu'ils participent au renflouement en convertissant leur crédit en capital. De même, devra-t-on, dans un avenir plus lointain, revenir à des mécanismes de garantie limités des dépôts. Ainsi, les pouvoirs publics auraient en grande partie transféré la charge du traitement des crises sur les actionnaires, les créanciers privés, voire les déposants, ce qui réduirait par définition l'aléa moral. La perspective d'avoir, le cas échéant, à contribuer au financement des pertes bancaires rendra les créanciers, c'est-à-dire les porteurs d'obligations bancaires, plus prudents et les incitera à augmenter le prix de leur concours aux banques. La réduction de l'aléa moral a toujours un coût. Ce système de résolution des crises, comme on dit, pour être efficace, devra être harmonisé au plan international, car les grands groupes bancaires sont transfrontaliers. Cela sera complexe, étant donné le caractère national des lois sur la faillite. Enfin, les incitations à une meilleure gouvernance des banques doivent être renforcées. Je parle de la responsabilisation des dirigeants, de l'obligation de détenir au bilan un pourcentage minimum de produits qu'on titrise, l'aménagement des rémunérations et des bonus, de façon à ne pas favoriser la recherche à tout prix de gains immédiats. Tels sont les grands axes sur lesquels le G20 et les régulateurs travaillent pour réduire l'aléa moral. On a même lancé l'idée d'identifier à l'avance les banques les plus importantes du point de vue dit systémique et de leur imposer des contraintes supplémentaires en capital. Je crois que l'erreur, là, serait de définir, comme le souhaitent les États-Unis, les banques systémiques en fonction de leur seule taille. C'est l'idée du « too big to fail ». En effet, le vrai problème réside bien plus dans la qualité des actifs et le caractère plus ou moins risqué des activités que dans la taille du bilan. En conclusion, j'exprimerai trois idées. Si on se borne, comme c'est la tendance actuelle du comité de Bâle, à imposer au système bancaire des règles de plus en plus rigoureuses et surtout complexes, on échouera. Les règles seront tournées, les transferts d'opérations se feront au profit du secteur financier parallèle, qui, lui, n'est pas réglementé, le « shadow banking », les banques qui font des crédits à l'économie, notamment les banques européennes, qui, contrairement à celles des États-Unis, financent les trois quarts de l'activité économique, risqueront d'être acculées à restreindre leurs prêts et donc à réduire le financement des entreprises. Au total, le système bancaire ne sera pas plus performant. Deuxièmement, il faut que la surveillance des établissements soit effective et réelle et s'étende au secteur parallèle. Pour ça, les superviseurs devront être armés, disposer de moyens humains nécessaires et recourir à des recrutements privés. Car c'est dans le privé qu'on sait comment se fait l'innovation financière. Ce n'est pas dans les administrations. Enfin, n'oublions pas que la crise est née d'une extraordinaire propension des autorités à ne voir que le très court terme et à négliger les risques globaux, comme par exemple les bulles de crédit posées par le fonctionnement du système lui-même. Il conviendra donc de disposer de conseils du risque systémique, tel que celui qui vient d'être institué en Europe auprès de la BCE, à la suite du rapport que j'ai eu l'honneur de présider, pour analyser les risques au niveau macroéconomique et formuler assez tôt les recommandations qui s'imposent, y compris en matière de politique monétaire et de réglementation. Alors, je termine parce que je n'ai pas pu me priver du plaisir de revenir un instant à la théorie, Monsieur le Président. Ce que nous avons observé, en fait, n'est pas la manifestation du comportement déviant de quelques acteurs, les cavaliers libres, les free riders, dont parle Arrow, et qui chercheraient cyniquement à abuser des mécanismes d'assurance. Le phénomène est en effet beaucoup plus large et complexe que celui qu'avait analysé Arrow. C'est d'une très grande partie du système financier qu'il s'agit, pas de quelques exceptions. Les responsables ont cherché à profiter au maximum des gains que l'innovation financière, comme on dit pudiquement, leur permettait de réaliser. Leurs comportements ont été grégaires et reposaient souvent sur des illusions, comme par exemple celle de la dispersion des risques grâce à la titrisation ou celle d'un accès permanent à la liquidité des marchés à court terme. Ils tiraient parti aussi, ces responsables, de l'asymétrie à privatif d'informations dont j'ai parlé. Mais ces comportements eux-mêmes étaient en grande partie encouragés par les autorités publiques. Ainsi, le Congrès des États-Unis, pour des raisons politiques, a puissamment incité les banques à consentir des prêts subprime. Quant aux règles comptables, qui viennent aussi du monde public, elles ont exacerbé les comportements les plus risqués en phase ascendante du cycle. De plus, la faiblesse de la surveillance, qui est aussi une affaire publique, donnait le sentiment aux opérateurs que leurs activités étaient acceptables, après tout, sans parler de la politique monétaire qui encourageait la création de bulles de crédit. L'aléa moral est donc le produit non seulement de comportements individuels, qui heureusement du reste n'ont pas été universels, un certain nombre de banques ayant su raison garder, mais aussi de la conjonction de facteurs politiques et réglementaires. Le système tel qu'il a évolué a en fait favorisé les stratégies risquées assises sur une intime conviction d'invulnérabilité. C'est donc moins le cynisme déviant de quelques agents qui est en cause que l'environnement institutionnel général. Chacun se disait qu'en cas de crise, le sentiment d'ambiguïté constructive entretenu par les autorités sur leur attitude éventuelle se transformerait le jour venu en une véritable garantie en dernier ressort. Par un curieux paradoxe, le cadre réglementaire qui devait, dans la théorie d'Arrow, diminuer les risques a en fait contribué à la diffusion de l'aléa moral. D'où l'importance de revisiter ce cadre réglementaire, de revenir à des concepts simples sur la gestion des risques et pour les banques centrales de recommencer à s'occuper de la stabilité financière. Alors, pourrait-on espérer vivre dans un monde où l'on n'entendrait plus le PDG d'une des plus grandes banques américaines et du monde dire publiquement, quelques semaines avant l'éclatement de la crise, je cite, « Tant que va la musique, il faut continuer à danser ». Fin de citation. Cette banque a été l'une de celles qui a reçu les concours les plus considérables du contribuable américain. Le dirigeant a certes perdu son poste, mais il a été, avec ses collaborateurs largement dotés de rémunérations variables, un des grands bénéficiaires de l'aléa moral et du principe que je souhaite révolu, selon lequel, si les profits restent privés, les pertes sont nationalisées. Il est impératif de mettre rapidement en œuvre les réformes nécessaires dont je vous ai parlé et qu'elles soient appliquées de façon homogène au plan international. Je rappelle que les États-Unis n'ont toujours pas appliqué Bâle II, qui précède le Bâle dont j'ai parlé. Nous n'avons d'ailleurs pas d'autre choix. En effet, et c'est ma phrase de conclusion, je ne pense pas que nos démocraties soient en mesure, financièrement ou politiquement, de mettre en œuvre à l'avenir un nouveau renflouement du système financier tel que celui que nous avons connu depuis 2 ans. Je vous remercie.
Vous venez d'entendre Jacques Delarosière. Le texte de sa communication est disponible à la lecture intégrale sur le site de l'Académie www.asmp.fr.